Mais je t'inquiète pas, les Chinois.
Ah bon?
Ouais, ouais.
Ah oui, non, pas religieux, mais
ah
un
bon,
peu. Non, pas religieux. Il est pas religieux.
C'est des gens, ça change.
Non, mais il se cachait, il se cachait pas.
On y va.
Ok.
Alors, on va commencer, si vous voulez bien.
C'est la Shoah.
Non, mais bon.
On va prendre la page 4. Donc, je vous rappelle, on a la semaine dernière, mercredi dernier et mercredi d'avant, on n'a pas pu faire ce cours, puisqu'on a étudié la halakhot de Hanouka. Mais on reprend les 13 méthodes herméneutiques. Donc, à chaque fois, on essaie de donner des exemples concrets. Donc, je vous rappelle le principe. Là, on est au 9e principe. On est au principe numéro 9. Ici, à côté, c'est écrit 8, là, par erreur, en français, mais c'est le 9e principe. Donc, on va donner des exemples. Et comme je vous ai dit la dernière fois, Bezrat Hashem, s'il vous plaît. On y va, messieurs ? Amen. Et donc, comme on a dit, dès qu'on aura fini Bezrat Hashem, les 13 principes avec les exemples, Bezrat Hashem, on a une souga dans la Gemara Rosh Hashanah qui regroupe à elle seule 6 principes herméneutiques, donc c'est déjà pas mal. Il y en a même qui dit qu'elle regroupe 7, ça on verra tout de suite Bezrat Hashem. Alors, on y va. On est à la page 4.
Non.
Kol davar shaya bichlal veyatsa liton ta'an echad she'uchinyano yatsa le'akel velo le'achamir. Traduction. Kol davar shaya bichlal. Vous vous rappelez que dernièrement, on parle beaucoup d'un klal et d'un prat. Un klal, juste à la page 4. Au principe numéro 9. En français, c'est écrit 8, c'est une erreur. Donc, on parle souvent dernièrement d'un klal et d'un prat. Le klal, c'est un ensemble. Et le prat, c'est un détail, c'est un cas particulier. Donc on a donné plein d'exemples dans les cours précédents que comment des fois la Torah, elle va parler d'une généralité, par exemple d'une fête, des fêtes en général, et après la Torah va spécifier un cas, elle va dire Pessah. On a expliqué qu'à chaque fois il y a des raisons, que quand la Torah part d'un principe et qu'après elle donne un exemple, d'accord, elle donne un exemple, c'est pas par hasard, c'est que la Torah a une raison. Alors là maintenant on a un exemple particulier. C'est quand on a un groupe, ça veut dire un ensemble, qui est suivi d'un élément redéfini. Je vais donner un exemple tout de suite. D'accord ? On a, dans la paracha, on a deux psukim ici, qu'on a juste en dessous de nous, qui parlent du meurtrier involontaire. Vous savez qu'un meurtrier volontaire n'a pas de takana. Un meurtrier volontaire, il n'a pas la takana des villes de refuge. S'il vous plaît, ça vous va ? Le meurtrier involontaire, Lui, il a un tikkun particulier. Alors regardez. On a deux psukim. Un pasuk dans la paracha, de mémoire, c'est la fin de la paracha Kedoshim. Et un autre pasuk qui est dans la paracha Kitete. Le problème, c'est qu'a priori, ces deux versets se contredisent. Regardez bien ce qu'on va lire ensemble. Premier pasuk te dit, Umake be'ema yeshalemena. Celui qui tue un animal devra le payer. Ça veut dire qu'il devra le rembourser. Umake Adam, et celui qui frappe un homme, Yumat, sera mis à mort. Est-ce que la Torah ici a fait la différence entre le meurtrier volontaire et involontaire?
Non.
Non. Donc ça veut dire que peu importe, meurtrier volontaire ou involontaire, si on s'arrête à la paracha Kedoshim, d'accord?
Dans les deux cas, c'est Yumat tué, Umake frappé.
Ah, parce que là-bas, on parle des coups, des différents coups. Umake Bamashalmena, Umake Adam Yumat, on parle des différents coups qu'on peut donner. D'accord?
Pourquoi tu traduis tué d'un côté, mais frapper de l'autre?
Umake, c'est la Gemara explique là-bas que c'est un coup mortel. D'accord, c'est un coup, c'est une makash, yashbok et de la mito. C'est un coup mortel. Donc si je m'arrête à ce premier pasouk, qu'est-ce que je dis? Je dis que le meurtrier doit être mis à mort, peu importe s'il était volontaire ou involontaire. On est d'accord? Donc ça veut dire que le cas du meurtrier involontaire, haya bichlal, il faisait partie de l'ensemble de Maké Adam. Si je m'arrête là, je pense qu'on doit le mettre à mort. Ensuite, on va bien plus tard dans le chumash de Varim, donc deux chumash en avant, et c'est là qu'on a le cas du meurtrier involontaire. Le cas, le pasouk te dit comme ça. Cher Yavo Adreou Bayar. Si une personne va venir, d'accord, donc s'il est entré avec son ami Bayar dans la forêt. L'artov etzim pour couper du bois. Venitra Yado Bagarzen, l'ichota etz. Et donc, il va brandir sa main il va mettre beaucoup de force pour couper du bois avec une hache. Venachal à Barzel Minaetz. Et vous connaissez le cas. Le fer s'échappe du manche. Donc apparemment il n'était pas bien attaché. Ou Matsa Edreou va mettre. Et malheureusement, donc il a tiré très fort. Et ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que le fer n'était pas bien attaché à la hache. Donc le fer est parti en arrière. Quand il prenait de l'élan, le père est parti en arrière et malheureusement,
il a tué l'autre.
Alors, quel est le din? La Torah nous dit exactement le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Où Yanous El Achad et Arima Ele. Donc, on lui donnera la possibilité de se sauver dans une de ces villes, c'est les villes de refuge. Et la Torah nous dit explicitement, va chai. Va chai, ça veut dire quoi?
Il vivra.
Donc ça veut dire que là, ça veut dire qu'il va pas mourir. Donc, on a ici un exemple, on va relire le principe ensemble, le principe numéro 9. Kol davar shaya bichlal. On avait ici une chose qui faisait partie d'un principe, à savoir le meurtrier involontaire, puisque dans le premier pasouk, Maké Adam, c'est celui qui frappe un homme tout court, sans faire la différence, meurtrier volontaire ou involontaire. Veyatsa lit'on, et plus tard il va sortir, lit'on pourrait redéfinir, donc ta'an echad, sheuchi inyano. On va redéfinir un détail. Alors, la halakha te dit dans ce cas-là, yatsa lehakel, velo leachamir. L'exception ne peut être uniquement pour une kula, et pas pour une khumra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on t'apprend ici un principe, que la seule raison pour laquelle ça marche et qu'on se permet de redéfinir une halakha qui a déjà été définie, c'est parce que on vient pour alléger le cas. Mais si Chas Veshalom c'était le contraire, et il y a des exemples, si la Torah te donne un principe, imaginez que le premier pasouk avait dit, celui qui frappe un homme payera. Sans faire de différence. Et qu'après t'as un autre pasouk qui te dit, attention, celui qui frappe volontairement devra être tué. Le deuxième pasouk aurait été ignoré. Pourquoi? Parce qu'on peut accepter un deuxième passou qui nous redéfinit quelque chose qui a déjà été défini, seulement s'il vient pour alléger. Là, dans ce cas-là, il vient pour alléger. Avant, on croyait Yumat qu'il allait être mis à mort, et là, on comprend que Vachai, il devrait aller en ville refuge, mais il restera en vie. Ça veut dire que, c'est un principe très fort, et le Harizal, il s'arrête beaucoup sur ça, on reviendra dessus, Bidrat Hashem plus tard, qu'on voit d'ici un principe que la Torah t'apprend, que quand t'as quelqu'un on a déjà défini son verdict, qu'il doit rester en vie, même si après, on dit, attends, on veut revenir en arrière, on s'est trompé, on revient pas en arrière. On peut plus changer. Ça, c'est le message.
On peut changer que dans le cas où on a...
Que les hakels, seulement si on veut être mekil.
Si on a un qui vient dans le jugement, si c'est pareil, il dit...
Pareil, d'accord. Une fois que le verdict a été tranché, tant qu'il n'a pas été mis à mort, c'est la Gemara Sanhedrin, ça. Mishnah. Tant que le verdict n'a pas été tranché, si on veut être mekil, on peut revenir en arrière. Mais si on veut être marmir, c'est là qu'il va dire, attendez, j'ai trouvé un autre nouvel élément, on dit ça y est, c'est fini. On a tranché. C'est de ça qu'on apprend, c'est ce principe-là. D'accord? Donc, yatsa lehakel, est-ce qu'on a compris le principe? C'est bon? Ça arrive assez souvent dans la Torah, des cas que la Torah redéfinit. Ça veut dire que c'est un cas a priori qui était déjà couvert, on croyait que Makadam Yumad, voilà. Et après la Torah, des fois, trois roumages après, elle te reprend le cas, elle te prend un détail, elle te sort un truc le contraire. Ça marche uniquement si c'est les Kula, mais pas les Khumra. Bien avant, c'est deux parachas qui n'ont rien à voir. D'accord? Ça veut dire que Mamash c'est contradictoire quand on le lit ici. Ok? Maintenant on a un autre exemple. Donc maintenant on a un nouveau principe, le principe numéro 10. Kol davar shehaya bichlal. D'accord? Là maintenant, donc le principe numéro 9, c'était un élément qui n'a pas quitté le groupe. C'était un élément qui est resté dans le groupe, mais qui a été redéfini. C'est-à-dire qu'on en a reparlé a priori inutilement, et on a changé. Ça c'était le principe numéro 9. Le principe numéro 10, c'est un élément qui va quitter le groupe. On va donner des exemples, vous allez comprendre tout de suite. Et donc là, si c'est un élément qui quitte le groupe, là ça pourra... soit alléger, soit alourdir le cas. On va expliquer. On a le sacrifice quotidien du Shabbat. D'accord? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Pour le principe numéro 10. C'est un exemple qu'on je donne. Il y a plein d'exemples pour ça dans la Gemara. Mais là, on je donne un exemple. La Torah nous dit, dans la paracha qui nous parle du Korban Tamid quotidien, donc le Korban Tamid qui est quotidien, qu'on devrait faire tous les jours, inclut a priori le Shabbat, elle te dit, et ta kevesecha ta seva boker, le premier agneau, tu l'offriras le matin, ve ta kevesecheni ta se, ben Arbaïm. Et le deuxième, tu l'offriras le soir. Donc, est-ce que la Torah ici... Alors, voilà, c'est le soir. En vérité, c'est pas le soir. Les Chachamim ont compris que ben Arbaïm, ça veut dire quand le soleil commence à se coucher. Parce que, alachiquement, non, c'est pas en fin de journée. Alachiquement, dès qu'on est une demi-heure après Khatsot, on considère que le soleil est déjà en train de se coucher. Nous, on prend 5 minutes pour aller dormir. Le soleil, il prend une demi-journée pour se coucher. D'accord? Donc, ben Arbaïm, il y a le mot Erev. Mais les Chachamim ont compris que ça veut dire quand le soleil commence à se coucher. D'accord? Donc, c'est toute l'après-midi. À partir de, du moment où on commence à voir que le soleil se couche. Quand il est au zénith, tu sais pas s'il vient d'arriver ou s'il va repartir. D'accord? Donc, à un moment, tu sais pas. Mais à des moments, c'est carrément défini. Alors, si je prends ce premier pasouk, est-ce que la Torah ici m'a fait la différence entre le Shabbat et le Chol?
Non,
il a dit le premier tu fais le matin, le deuxième tu fais l'après-midi. Donc bon, la Torah ici ne t'a pas défini. D'accord ? Maintenant, il y a un autre pasouk qui te dit, ou bien ma Shabbat, le jour du Shabbat, Shner Vasi Beneshanat et Mimim.
Double.
Le jour du Shabbat, d'accord ? Donc on devra amener Shner Vasim, deux agneaux, Beneshana, âgés d'un an, Tsemimim, sans défaut, d'accord ? Ou Shne Esronim, Salat Mintra, Beulabashev, Venisco. Ainsi que, pour oblation, on prendra 2/10 de fleurs de farine, pétruit à l'huile, et donc, et la libation qui va avec.
Le schnitzel.
D'accord ? Le schnitzel du Shabbat.
Voilà, tu parlais du schnitzel.
Ouais,
d'accord ? Il n'y a pas de hasard.
C'est la règle. Chaque année, devant. Donc, a priori, là, la Gemara explique que dans un cas comme ça, les agneaux, ça veut dire qu'a priori, le Corban Tamid, il y avait tous les jours déjà le Corban Tamid. Donc, qu'est-ce qui est venu changer ? Pourquoi la Torah a eu besoin de ramener un pasouk pour le Corban du Shabbat ? D'accord ? Ah, dans ce cas-là, on aurait pu dire le Shabbat, tu rajoutes la farine. Et elle aurait pu le faire à l'endroit même où ça se passe, pas deux Khumash plus tard. D'accord ? Parce que le premier, c'était dans la paracha Kitissa, d'accord ? Et le deuxième, Khazak, ouais, c'est mon index. Et le deuxième, c'était dans Pintras. Donc, c'est très loin, c'est pratiquement la moitié de la Torah après. D'accord ? Donc, pourquoi la Torah a répété ? On a ici Davar Shehaya Bichlal. Le Corban du Shabbat était inclus dans le Klal, puisque quand tu m'as dit, le premier le matin, le deuxième l'après-midi, c'était déjà inclus dans le Klal. Et après, Veyat Salit Antanechat Shelo Cheignano, il est sorti, d'accord ? Pour me répéter, mais pour m'apprendre une nouvelle chose. Qu'est-ce qu'il m'a appris de nouveau ici ? Vous avez dit ? Il m'a appris la farine. Alors, dans ce cas-là, Yat Salakal ou l'Achamir. Quand la Torah t'exclut un cas, pour t'apprendre une nouvelle halakha, pas comme le premier cas. Dans le premier cas, la Torah est venue pour te dire le contraire de ce que tu avais dit la fois d'avant. Au début, elle t'avait dit, il est mis à mort. Après, elle vient te dire, bah tu sais quoi, il reste en vie. Là, on t'a dit, tu veux te contredire, je veux bien, mais contredis-toi seulement si c'est pour les hakel, seulement si c'est pour alléger, pas pour alourdir. Mais là, dans le cas numéro 10 ici, dans le 10e principe, la Torah n'est pas venue ni pour alléger ni pour alourdir, elle est venue pour t'apprendre une autre chose. Elle est venue pour t'apprendre un autre détail qui n'a rien à voir et dans lequel on n'a pas parlé, puisque tous les jours de la semaine, on ne ferait pas les libations. C'était que le Shabbat. Alors là, dans ce cas-là, Yatsa, les Hakel ou les Achamir, ça peut venir soit pour alléger, soit pour alourdir. Et comme si vous voulez bien, on va lire ensemble là, ce que j'ai écrit. Donc, regardez. Les deux agneaux du Shabbat sont l'équivalent du Corban classique de chaque matin. Il a donc quitté le groupe classique pour entrer dans un nouveau groupe shabbatique qui contient deux sacrifices au lieu d'un seul. C'est ce qu'on a dit, d'accord ?
Il y en a déjà deux au début, là, puisqu'on dit qu'il y en a un le matin.
Non, alors là, il y en a deux le matin.
Ouais, deux et deux.
Là, deux
le matin. Ah, l'après-midi, c'est encore autre chose.
Ça va faire trois, alors.
L'après-midi, je ne sais pas si c'était deux ou un. Je ne sais pas, j'en trouve de moi.
Là, c'est pas écrit.
Shabbat, non, c'est pas écrit. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici ?
Ils sont en plus des deux.
En plus. Non. C'est ça le tamid.
Un en plus.
Le tamid, c'est service spécial.
D'accord ?
Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici ? On voit ici comment d'un côté ça va l'alléger et d'un côté ça va l'alourdir. C'est intéressant, regardez. D'un côté ça l'allège parce que un des deux agneaux, c'est le moussaf. Le fameux moussaf qu'on rajoute. Et le corban moussaf pourrait être offert toute la journée. Alors que le corban tamid du matin pouvait être offert que le matin. Donc le fait qu'on a un nouveau groupe, nouvelle halakhot. Si on considère que c'était une continuité du Corban Tamid, dans ce cas-là, Corban Tamid c'est le matin, bah, il faut faire tout le matin. Le Corban Moussaf, on peut le faire même après Khatsot.
Oui, mais c'est écrit là, le premier on doit le faire, 1 plus 1, le premier on le fait quand même le matin, comme dans la semaine.
Le premier,
le deuxième, alors en quoi ça allège
bah parce que
si ça allège par rapport au cas d'avant, on aurait dû dire, les deux on peut le faire
quand même. Ça allège par rapport au bonus.
Oui, mais le bonus, on l'avait pas dans le premier cas.
Justement.
Et tu te fais taxer en plus, après...
Mais bon, le deuxième a quand même, dans le corban du Shabbat, même le deuxième a quand même la définition de tamid. Ça s'appelle quelque chose de récurrent, qui revient. Et donc, ça l'allège. Vous savez d'ailleurs qu'alachiquement, le Shacharit, même Shabbat, bien sûr, on doit le faire avant Khatsot, et même avant encore. Mais Moussaf, on peut aller jusqu'à toute la journée. C'est écrit quand même, le Shulchan Aruch, il tranche sur ça, que Moussaf, c'est bien d'essayer de le faire avant la 7e heure. La 7e heure, ça veut dire...
On pourrait théoriquement faire minra avant Moussaf.
Théoriquement, exactement. D'accord ? Mais le minadine, si une personne n'a pas pu faire Moussaf, il peut le faire toute la journée. Alors que Moussaf est une prolongation du Corban Tamid du matin. Donc on vient de voir ici comment le fait que le Corban du Shabbat a rejoint un nouveau groupe, c'est bon, un nouvel ensemble, et ben ça l'a allégé du coup, ce Corban Moussaf, tu pourras le faire toute la journée. Mais ça l'a aussi alourdi. D'accord ? Pourquoi ça l'a aussi alourdi ? Parce que on va offrir deux agneaux au lieu d'un seul habituellement. Donc ça veut dire que le chidouche qu'on apprend d'ici, j'explique, c'est que des fois, la Torah
Là, c'est deux matins.
Deux le matin.
Et l'après-midi, je ne sais pas, il ne sait pas si c'est un ou deux, mais il y en avait deux le matin. Donc ça double.
Moi, j'ai deux le matin.
C'est le moussaf. Le moussaf que vous faites, le Shabbat. C'est le moussaf, le fameux moussaf.
Oui, il a dit 1 et 1, il a dit 2.
Il s'est dit que dans le deuxième passage, c'est pas 1 et 1.
Il est marqué dans la Torah.
Et là, ils auraient mis
le Shabbat
Bilanto, 1 et 1.
Oui, oui, non, mais ça, le Biam à Shabbat, on s'écrit clairement ça. Shner Vassim Beneshana Temimim. Les Shner Vassim, c'est un normal et l'autre moussaf. Moussaf, c'est le bonus. Quoi? C'est le Pasuk, vous pouvez voir. Regarde le Pasuk. Justement, comme le passage te précise pas que c'est le matin, c'est ce qu'on a dit, ouais, d'accord, c'est de là qu'on apprend que le moussaf pourra être fait toute la journée. Donc en vérité, ça veut dire ce qu'on apprend d'ici, si on veut comprendre la logique qu'il y a derrière, ce klal, c'est que, quelle est la différence entre le klal numéro 9 et le klal numéro 10? C'est que dans le klal numéro 9, la Torah est venue pour préciser.
Si on continue la phrase plus loin, il y a marqué l'après-midi, tu offriras machin ou pas?
Non, la Torah précise pas sur l'après-midi.
Alors on peut comprendre.
Non, c'est Moussaf. La Torah, c'est la paracha qui parle du Moussaf. La paracha Pinchas, elle parle de tous les Moussaf, n'est-ce pas? On est d'accord? Voilà. Ça parle de ça. On te parle des fêtes, du Shabbat, de Rosh Chodesh, de tout ce que tu veux. D'accord? On te parle de toutes les fêtes. La paracha Pinchas, elle couvre toutes les fêtes.
Bon, là, c'est deux pour Moussaf alors. Et pour Shachari, pour le
Moussaf. Non. C'est la différence entre
le... Tu parles de Moussaf.
J'ai pas compris du tout, là. Vraiment,
le
matin
et un agneau l'après-midi.
C'est-à-dire, Moussaf, pour le faire tout
le temps. Deux le matin.
Le deux, il te dit deux le matin. Non, ça veut dire deux en tant que Corban Tamid. On parle du Moussaf. Prends la paracha.
Alors, ouais, mais
à part ça, de toutes les façons, il y a le Corban Mincha aussi qu'on offrira Shabbat après-midi. C'est sûr, ça.
C'est la règle générale.
C'est la règle générale, ça. Ça, on remet pas en arrière. Corban Tamid tous les jours. C'est sûr, ça.
Ça, c'est la règle générale.
C'est pas shoot. On fait le chidouche ici de ce passouk, c'est le corban de Moussaf.
Voilà. C'est qu'en fait, on fait
d'accord.
D'accord.
Mais il parle de deux.
Alors, justement, donc ça veut dire c'est évident que même Shabbat, le shacharit de Shabbat, le corban tamid de Shabbat ce matin, on doit le faire comme d'habitude.
Ce matin.
Okay. Seulement, quel est l'élément nouveau ici? C'est le Moussaf.
Tu dis qu'on peut le faire l'après-midi? D'accord.
Non, justement. Donc l'élément nouveau, c'est le Moussaf. Alors, ce qu'on te dit ici, le Moussaf. Étant donné que c'est un élément nouveau, c'est pas comme dans le principe numéro 9. Dans le principe numéro 9, c'est pas un élément nouveau. C'est un élément qu'on connaissait déjà, mais tu m'as changé la halakha. Avant, tu m'as dit tu le tues, maintenant tu m'as dit tu le laisses en vie. Là, on te dit, ah, tu changes la halakha, tu peux le changer que pour alléger, mais pas pour alourdir. Mais quand c'est dans le principe numéro 10, on a appris un nouveau cas qui n'était pas inclus dans le premier. C'est le Corban Moussaf. Le Corban Moussaf n'était pas là la semaine. Alors, on te dit, puisque c'est un nouveau cas, alors dans ce cas-là, t'as toutes les permissions possibles. Tu peux aller soit pour alléger, soit pour alourdir. Alléger, ça l'allège puisque tu peux le faire toute la journée. Et alourdi, ça l'alourdit puisque tu offres deux corbanotes au lieu d'un seul.
Mais si tu veux faire l'après-midi, tu vas faire un en plus l'après-midi.
Non, ça n'a rien à voir. C'est un corban moussaf. Comme Shabbat, vous faites shacharit, moussaf, mincha, on est d'accord? Pourquoi vous faites trois filotes? Ça correspond à trois corbanotes qui avaient.
C'est moussaf en rajouté. C'est pas clair dans le texte.
Prenez la paracha, là, j'ai mis un passouk seulement, mais prenez la paracha, on parle
pas. Ce qui est pas texte, surtout ce qu'on aurait pu comprendre, c'est que c'est deux pour Moussaf. Comme il parle que de Moussaf, on aurait pu comprendre que les deux, c'est pour Moussaf. Que c'est deux en plus, par rapport à celui de Shacharit, ouais, qu'on offrait le matin.
C'est vrai qu'on aurait pu faire une erreur.
Bon,
En tout cas, c'est comme ça. D'accord?
C'est comme ça.
Donc, on a ici. On a expliqué la différence qu'il y a entre le principe numéro 9 et le principe numéro 10. Maintenant, on va passer au principe numéro 11.
La Torah te dit pas que c'est en plus. Moi, j'avais compris tout le temps.
Il était déjà compris dedans.
J'ai toujours compris qu'il y avait tout le Shabbat.
Mais ça change pas. Ça change pas. Attention, on garde quand même que le Shacharit, ça veut dire le Tamid du Shabbat matin, doit être fait à l'heure comme tous, parce que lui, il a pas quitté le groupe. On est d'accord? Lui, il a pas quitté le groupe.
Matin,
celui qui a quitté le groupe, c'est Moussaf, c'est un nouvel élément.
Il y en avait deux, quand on voulait, plus la farine.
Non, bah d'accord, bah c'est pas ça le pchat. Parce que dans la Torah, c'est un ensemble de versets. Donc ça veut dire.
Non, après, quand c'est temps, j'ai découvert.
C'est un ensemble de versets, ça veut dire pour comprendre le verset de Pinchas, il faut d'abord avoir le verset qu'il y avait avant.
La Torah. On a alourdi ou on a allégé?
Les deux. Pour le Moussaf, on a allégé, on a alourdi. D'un côté, on a alourdi parce qu'on va offrir un nouveau corban au lieu de deux. Mais d'un autre côté, on a allégé puisque le Moussaf. Pas comme le Tamid, lui peut être offert toute la journée.
Il y en avait deux, Shabbat.
Et qu'est-ce qui nous a motivé?
Je pensais qu'il y avait trois. Bon,
sujet, mais
du coup, il y en a trois, Shabbat.
De le placer, parce que la communauté est là, de le placer après.
Deux le matin. Deux le matin.
De le placer après.
Comment l'époque de Hollande, elle est chère. Hein. Toujours un truc.
On aurait pu le placer après Ratzot.
Bonne question. Parce que la Torah a dit, la Gemara pose votre question. De mémoire, c'est parce que la Gemara a dit, parce que c'est écrit au Biyom à Shabbat. Et c'est pour ça qu'on veut le faire quand il fait plein jour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Chachamim considèrent que dès qu'on est dans l'après-midi, dès qu'on voit clairement que le soleil est en train de se coucher, on est déjà vers le soir. Biom, le yom pour nous, c'est plus le matin que l'après-midi. D'accord ? C'est pour ça, en hébreu, regardez le mot ben arbaïm. C'est quoi ben arbaïm ? Entre les soirs. C'est-à-dire qu'il y a le vrai soir, et il y a le moment où ça commence à être le soir. Et on appelle ce moment entre les soirs.
Entre chien et loup.
Moussaf, on peut le faire sans problème.
C'est une heure moins.
À Simchat Torah, par exemple, à quelle heure vous avez fait Moussaf ? Quelle heure vous avez fait Moussaf ? Alors on peut le faire même après, parce que Shulchan Aruch dit que dans quel cas c'est assour de dépasser, on a dit une heure et demie, environ deux heures, c'est quand on le fait volontairement. Mais si ça s'est fait comme ça, et que parce qu'on a été bloqué dans la tefila, dans ce cas-là, c'est Moussaf sans problème. Voilà. Le seul problème, c'est Mincha avant ou pas ? Exactement.
On pourrait faire Mincha avant ?
Bien sûr, on peut faire Mincha avant Moussaf.
Parce qu'effectivement, on a fait rentrer l'heure de Mincha, on devrait faire Mincha.
Shulchan Aruch te dit comme ça. Si une personne, pour répondre à la question, il te dit, si une personne a oublié de faire Moussaf, par exemple, il a dû partir. Tu entends Dan ? Si une personne a dû quitter la synagogue avant Moussaf, d'accord ? Il rentre chez lui, à l'heure de Mincha, il se rappelle qu'il n'a pas fait Moussaf. Il doit faire d'abord Mincha, après Moussaf.
Mais est-ce qu'il a l'autorisation de faire Moussaf s'il a dépassé l'heure ?
Il peut faire Moussaf jusqu'à la Shkia. C'est ça ce qu'on a expliqué, ça l'a allégé.
Voilà,
c'est...
pas
comme Mincha Shachri. C'est un bonus. Un cadeau, difficile de rattraper un cadeau.
Dans le nom.
Un bonus. Ok. Maintenant, on a maintenant un nouveau cas. C'est quoi ? Kol Davar, ça habite avec nous ou pas ?
Ça va, c'est ta cave ou pas de monde ?
Je t'ai dit, quand tu vas arriver en haut, si tu veux réviser ces textes, il faut les avoir étudiés au moins une fois.
Ça dépend, quel cas vous parlez.
Non, j'espère que vous n'allez pas tomber là-dessus. Tu tombes dessus.
Comme au balai. Ça fait un pas. Bon, les 13 cas.
Alors.
Mendy.
Mais toi t'es pharmacien dans les ordonnances, c'est comme ça aussi.
Dans
les ordonnances, t'as un ensemble, et des fois t'as un ensemble qui quitte le groupe. Par exemple, des fois on te dit ça, faut faire attention, tant de jours, ça, tant de jours. Il y a ces notions là.
Ouais.
reste dans les études cette
année. Je sais que la fête des impôts, toujours les Hermir. Hein.
C'est les Hermir, oui. À eux, c'est les Hermir. Ouais. Maintenant. Kol davar shaya bichlal veyat salidon bedavar chadash. Toute chose qui faisait partie d'un klal veyat salidon bedavar chadash et qui est sortie pour lidon bedavar chadash, ça veut dire qu'il a quitté le groupe. Alors, on va expliquer tout de suite la différence. Iata yachol la chaziro lichlalo, atchi achazirenu akatuv lichlalo beferouche. Tout élément qui faisait partie d'un groupe, qui a quitté le groupe, ne pourra pas réintégrer le groupe tant qu'il n'est pas intégré explicitement. Alors je vais donner un exemple tout de suite parce que là, ça, il nous faut un exemple pour ça. Regardez. On a le cas de la terouma pour la fille d'un Kohen. La fille d'un Kohen qui n'est pas mariée a le droit de manger la terouma comme son père. Parce que la terouma, c'est quoi pour les Kohanim? D'accord. Maintenant. Si cette fille se marie avec un Israël, elle perd son statut. Donc elle a quitté le groupe. Elle faisait partie d'un groupe de Kohanim. Elle a quitté le groupe des Kohanim. Donc elle ne peut plus manger. C'est-à-dire que la Torah l'a exclue d'un groupe. Il y avait un groupe famille Kohen, d'accord ? Papa, maman, le garçon, la fille. Cette fille faisait partie d'un groupe. Quand elle s'est mariée avec un Israël, avec quelqu'un qui n'est pas Kohen, la Torah l'a exclue de ce groupe. Maintenant elle divorce. Elle retourne chez sa mère.
Elle va reviendre.
Alors, est-ce qu'elle peut réintégrer le groupe ?
Ah, non, d'après ce qu'ils disent.
Alors, elle peut réintégrer seulement si la Torah la réintègre explicitement. Donc on va lire tout de suite le pasouk. Regardez. Vilit beto, tous ceux qui naissent chez lui, chez le Kohen, ça c'est le groupe, em yochlou belachmo, ils pourront manger le même pain que le Kohen. Donc ça veut dire que papa, maman, le garçon et la fille, tout le monde peut manger. On a ici un ensemble de personnes qui peuvent manger. Maintenant, au bat Kohen, la Torah maintenant va te faire sortir la fille du Kohen quand elle va se marier. Au bat Kohen, la fille d'un Kohen, qui est le Ishza, si elle s'est mariée à une personne étrangère, ça veut dire à un profane, quelqu'un qui n'est pas Kohen, alors dans ce cas-là, cette fille-là, que sa famille continue, mais cette fille, bitrumat akodashim lotochel. Elle ne pourra plus manger la terouma, puisque la terouma c'est Kodesh, elle n'a plus accès au Kodesh. Donc la Torah l'a exclue du groupe, on est d'accord ? On l'a mis dehors de la famille Kohen, en tout cas pour les droits de la terouma. Maintenant, la Torah te précise, Bat Kohen, cette fille Kohen, qui est Almana ou Grusha, si elle devient veuve ou divorcée. Donc ça veut dire qu'elle a divorcé. Vezera enla. Et qu'elle n'a pas de postérité. Veshavel betavia kinurea. Et qu'elle retourne à la maison de son père, comme à sa jeunesse. Donc vous voyez, il nous faut trois critères ici. Premier critère, elle n'a plus de mari. Donc divorcée ou veuve. Deuxième critère, elle n'a pas d'enfant. Troisième critère, elle retourne chez ses parents, qu'elle n'a pas son appart.
Elle retourne pas automatiquement chez ses parents, par son statut ?
Non.
Le Véchava, c'est une condition ou bien
Véchava, c'est une condition. Véchava, c'est une condition. Et là, il y a le verdict de la Torah. Le verdict, c'est Milech Mavia Tochel. Ça, c'est le thème. Le verdict, c'est quoi ? C'est que Milech Mavia Tochel, elle pourra manger du pain de son père. Alors, la Gemara pose la question. Elle dit, mais pourquoi t'as besoin de me le dire ? Pourquoi t'as besoin de me le dire ? C'est évident. Pourquoi elle n'a pas le droit de manger la terouma ? Parce qu'elle était mariée à Israël. Quand elle n'est plus mariée à Israël, c'est évident qu'elle peut remanger. La Gemara te dit non, c'était pas évident. Parce qu'elle a quitté le groupe. Et un élément qui quitte le groupe ne peut être réintégré dans le groupe seulement si la Torah le réintègre explicitement.
On peut déduire que si elle a des enfants, elle ne peut pas manger la terouma.
De là, on déduit quoi, pardon ?
Oui, que si elle a des enfants, elle ne peut pas manger la terouma.
Bien sûr.
Pourquoi elle ne le dit pas clairement ? Il dit. Ouais, mais
si elle n'a pas de.
Et si elle n'est pas en chambre ?
Alors, c'est une bonne question ce qu'il pose. De là, on apprend que la Torah l'a réintégré explicitement seulement ce cas.
D'accord. Sinon, non.
Donc, les autres cas ne sont pas réintégrés. Donc, puisqu'ils ne sont pas réintégrés, elle reste dehors.
Et si le père est mort ?
Si quoi,
le père, le Cohen.
Non, attends.
Je sais pas, bonne question.
Bonne question.
Non, il a raison, bonne question. Parce que la Torah dit bête à via.
Oui.
La maison de son père, si son père est mort. A priori, ça devrait être la même chose.
Ouais, attends, c'est la maison, est-ce que c'est le père ?
Quand on dit bête à via, c'est pas la maison du père. C'est la maison paternelle, ça veut dire.
Oui, oui.
Ça veut dire
qu'il y a pourtant, chez nous, on dit elle retourne chez sa mère.
Oui.
Et la Torah dit elle retourne à la maison de son père.
Si elle reste habitée chez elle, elle peut pas ?
Non.
Ça va.
60, ça fait
60. Non, mais retourne, c'est bizarre. Non, mais c'est bizarre qu'il soit une différence pour retourner.
Oui, parce que, en fait, c'est comme ça. C'est que la Torah te dit, comme elle a quitté l'exclusivité des Kohanim, pour reprendre l'exclusivité, elle doit reprendre les mêmes conditions qu'elle avait à l'époque. Donc, les conditions qu'elle avait à l'époque, c'était quoi ? Elle n'avait pas de mari. Elle n'avait pas d'enfant. D'accord ? Et elle était chez ses parents.
Oui, mais voilà, si tu
prends
une fille de Cohen,
d'après ce qui est mis là, c'est pas...
Ouais, c'est un critère, ouais.
Il faut qu'elle habite là-bas.
Si tu prends une fille de Cohen, tu n'habites pas chez ses parents avant de se marier, comment tu fais ?
Le groupe des Kohanim.
À condition...
Maintenant, c'est pas vraiment la maison dans le sens...
Si, c'est condition. Elle retourne chez son père, donc elle mange la
terroir. Donc il faut qu'elle retourne chez son père.
C'est pas ce qui est traduit ici. La façon dont tu traduis...
Voilà, regardez. Si.
Là, c'est la troisième condition qu'elle retourne chez son père.
Si cette fille de pontifie... Bon, pontifie... Si cette fille de Cohen... D'accord, pontife, il traduit ça.
Trois conditions.
Ça va passer pas de chez nous, ça, pontife.
Si,
bon. Si cette fille de pontife devient veuve ou est divorcée, qu'elle n'ait point de postérité et qu'elle retourne à la maison de son père comme en jeunesse.
Et elle retourne. Automatique.
Oui, j'ai compris. Bon. Non, mais il faut voir le thème du pasouk. Le thème du pasouk, c'est la terouma.
Dans les deux cas.
On va savoir. Est-ce que
elle vient veuve c'est ou divorcée d'un Cohen.
Et quelle est ?
Si elle est veuve ou divorcée d'un Cohen.
La bonne question.
Mais elle n'a jamais quitté la maison.
Elle a quitté pour aller.
Non,
elle reste Cohen.
Elle reste Cohen.
Je sais pas.
Oui, mais.
On posait des colles aujourd'hui. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Oui.
Avant de se marier, elle n'était pas chez ses parents. Elle pouvait manger la terouma. T'as raison, c'est pas le même cas. Dans un cas, on parle de trois conditions. Et toi, tu parles de deux qui génère une autre.
Non, le cas numéro 11, c'est le principe qu'on veut apprendre, c'est que quand tu as un élément qui quitte le groupe, il doit être réintégré. Alors pareil, Léo, pareil dans la loi, c'est comme ça aussi. Ça veut dire que quand tu as par exemple un élément qui faisait partie d'un ensemble et que juridiquement on l'a fait sortir du groupe, d'accord ? Là on avait donné un exemple, on va dire familial, mais si juridiquement on le fait quitter le groupe, eh ben il faut le réintégrer dans le groupe.
Il fait avocat au téléphone.
Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple, hein ?
Internet.
Qu'est-ce qu'il y a, Léo ?
Non, je vois pas.
Il n'y a pas de cas pratique ?
Non, parce que tu as de toute façon de raisonner à contrario. Donc, un cas comme ça, tu pourrais raisonner à contrario.
C'est comme quelqu'un qui part de France et qui est au Figure Sociale, qui revient en France. Il retourne à ce qu'il
doit être réintégré explicitement.
S'il est réintégré
explicitement.
Il reste français.
Comme la loi du retour en Israël. Si tu la demandes, c'est réintégré. Quand c'est parti, c'est la France, je sais pas.
Oui.
La loi du retour en Israël, voilà.
Comment il faut ça ?
Ouais. La fille d'un Cohen.
Elle pourra revenir.
Et qu'elle à ce moment-là, elle pourra venir et elle pourra engendrer une matière que le V, c'est pas une troisième condition.
Non, c'est une déduction.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle, le veuf, est divorcé, et à partir du moment où elle n'a pas d'enfant, automatiquement, elle revient à la maison de son père.
Mais pourquoi c'est un critère? Si elle ne veut pas revenir à la maison de son père,
elle peut pas manger.
Parce qu'elle a fait ça, elle revient à la maison de son père. C'est pas la maison directe, c'est-à-dire la maison des Cohen, c'est-à-dire